L'idée, c'est que le défi 1 vous serve de, d'élan, hein, on va dire, avec les écueils dont on n'a pas encore parlé. Hein. Du coup, vous savez, et je vais vous indiquer où vous allez pouvoir trouver cette correction, que vous avez une correction longue et détaillée qui peut vous inspirer aussi pour vous mettre sur le chemin de vos propres interrogations sur vos projets. Je vais, à travers cette intervention 1, vous rassurer. 2, vous donner la parole, bien sûr, pour faire un retour de groupe. Et 3, je voulais vous dire en introduction que vos sujets sont très bons. Vous avez bien, vous avez des trucs très intéressants qui sont vraiment dans l'air du temps et dans les préoccupations que peuvent avoir des biologistes santé ou des BOE. Déjà, avant de commencer à vous donner la parole, une chose importante, les données, vous les inventez. Les données, je ne demande pas une quantité minimale, d'accord ? Vous pouvez travailler sur une trentaine d'informations inventées en insistant à la fin sur le fait qu'elles sont incomplètes et tout, etc. Vous avez carte blanche. Les données, vous pouvez aller les chercher sur des bases de données qui existent déjà. Je vous donnerai des listes de bases de données sur lesquelles vous pourrez aller, mais elles sont bien souvent pas extraordinaires, on en fait un grand cas, et elles ont plein de lacunes, et on se demande d'où elles viennent. Parfois, quand on les analyse, on trouve des choses très modestes et pas mirobolantes. Donc, tout dépend de ce qu'on va aller chercher. Vous avez, faites attention, si vous travaillez dans le domaine de l'halieutique, c'est-à-dire la pêche, hein, des données qui sont complètement farfelues, où vous les analysez, alors pas les données en elles-mêmes, mais quand on travaille sur des débits, vous allez voir, c'est assez compliqué, on travaille en puissance 5, je vous montrerai, quand j'aurai le temps, qu'avec des polynômes d'ordre 5, on peut déjà faire passer n'importe quel point entre eux, les relier n'importe quel point entre eux. Donc, méfiez-vous des modèles trop compliqués qui sont associés à des données particulières. J'ai cité l'halieutique, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez l'habitude de travailler sur des modèles comme la régression linéaire pour certains, hein, vous l'avez déjà fait ou vous l'avez abordé, vous l'avez oublié, tout ce qui va être les tests de Student, qui ne sont pas des tests en soi mirobolants, mais ce qu'on va appeler l'analyse de variance. Mais vous avez d'autres modèles, et bien souvent, notamment en santé, quand on se demande si on est en bonne ou en mauvaise santé, donc la variable à expliquer sera de nature qualitative, c'est nouveau ça. En fonction de quantitatif, ça s'appelle la régression logistique. C'est complètement nouveau pour vous. Mais là encore, excusez-moi, je ne fais pas de pub particulière ou de contre-pub ou de critique. Chacun a ses études à suivre. Pour l'instant, les BOE, dame le pion au biologie santé, quand ils seront en master sur l'aspect analyse des données au sens large, mais statistique, vous allez voir que vous avez plusieurs modules de statistiques faits par des collègues qui touchent. Hein. Et la régression logistique, vous la trouverez dans ce programme. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent utiliser la régression logistique, de vous dépasser dans ce qu'on va faire. On n'est pas là pour faire une compétition de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. On découvre, d'accord ? Vous pouvez aussi demander à des intelligences artificielles de vous faire des cours rapides sur tel ou tel aspect de la mathématique ou de la statistique que vous utilisez. Pourquoi pas ? Dès l'instant que vous gagnez du temps par rapport à lire un bouquin. J'essaierai de vous trouver des bouquins qui sont intéressants, mais un bouquin, c'est des dizaines d'heures d'études. Vous n'avez pas des dizaines d'heures d'études à consacrer. J'essaie de vous mettre sur la route. Alors, vous avez compris que ces projets, en fait, vont non pas être intéressants pour la force d'analyse qu'on va mettre, pour les outils qu'on va essayer de mettre en exergue, parce qu'on va fanfaronner, j'ai fait tel programme, j'ai fait telle analyse statistique, ouais, j'ai poussé la chose, je sais analyser. Très bien, ça c'est bien. Mais c'est surtout pour la réflexion, ce que vous allez apporter comme nouveauté. Ce que vous allez réussir à dépasser par rapport au petit exercice de statistique ou d'analyse des données typiques. Ce que vous allez pouvoir apporter en faisant parler des données dans votre sujet de biologie. Hein, on reste biologiste, c'est très important. Moi, je ne vends pas la data pour la data. Et surtout, eh bien, mettez l'accent sur d'où viennent vos données. Vous les avez inventées, mais vous épiloguez là-dessus, vous racontez une histoire. Et si vous avez un problème pour relier tous les éléments de votre projet, pensez au côté « je raconte une histoire ». D'accord ? Donc vous pouvez adopter le plan temporel, c'est-à-dire comment j'ai commencé l'étude et jusqu'où je vais. Dans votre étude, vous avez, et ce sera ma dernière remarque avant de vous donner la parole, vous avez deux aspects. Vous avez le premier aspect, trois aspects, qui va être l'acquisition des données. vous pouvez épiloguer sur la façon dont vous avez acquis des données. Encore une fois, c'est de l'invention, ok? Puisque je vous ai dit que vos données, vous les inventez, mais vous pouvez inventer aussi un contexte dans lequel vous avez acquis vos données, des mesures. Comme ça, vous montrez que vos données sont contrôlées pour toutes les variables dites indépendantes. Et que dans l'acquisition des mesures ou des observations, vous avez bien pris en compte tous les éléments, notamment les hétérogénéités ou les biais, on verra ce mot-là, liés aux facteurs expérimentateurs multipliés ou degré d'expérience, c'est-à-dire les expérimentateurs ne sont pas tous bien acquis à l'analyse des données, à l'acquisition des données, et tout, etc. Je fais beaucoup de répétitions de mots, là, c'est bizarre. Et du coup, vous avez aussi, est-ce que j'ai contrôlé tous les paramètres thermodynamiques? Ça, c'est très important en biologie, qu'on soit en santé ou qu'on soit en écologie. Du coup, ça, c'est important dans la première étape. Dans la deuxième étape, c'est qu'est-ce que vous allez faire des données? Vous allez donc apprendre avec moi à réaliser une base de données. Donc, cette base de données, vous allez imaginer que vous allez m'en donner une version numérique. Bien sûr, je ne demande pas quelque chose de réaliste, mais quelque chose qui parte sur des pistes. On verra ensemble ce qu'on sera capable d'amener à faire. Sachant que vous avez tout sur le site web pour construire une base de données en partant de zéro. Parce que bien sûr, vous n'avez jamais appris à faire ça et je ne vous demande pas de le savoir le faire avant. Vous avez ensuite l'analyse des données qui est un grand axe, c'est-à-dire vous allez modéliser. En gros, vous devez vous demander quelles sont les relations de cause à effet. Vous avez un centre d'intérêt. Quelles sont les relations de cause à effet que vous allez pouvoir montrer, mettre en exergue grâce à votre analyse de données. Enfin, le dernier axe, ça sera l'axe du machine learning, c'est-à-dire tout ce qui est modèle prédictif, tout ce qui est prévention, tout ce qui est action, c'est-à-dire que vous allez réaliser un modèle prédictif grâce à un algorithme que je ne demande pas de transformer en programme Python, ça peut être un algorithme, ça peut être des phrases en français, bien amenées, séquentielles, qui marquent bien, parce que c'est ça le plus important. Après, l'algorithme donnera lieu à un programme avec n'importe quel informaticien qui saura vous transformer l'algorithme. Donc, c'est pas un skill l'informatique, c'est un petit plus. N'oubliez pas que vous travaillez en équipe. Hein. Et ensuite, ce modèle prédictif peut être associé à une décision. D'ailleurs, peut-être un humain ou un robot prendra une décision à l'issue de l'analyse de votre fichier. Alors, n'oubliez pas qu'en machine learning, enfin, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est la machine qui est plus le fichier sans intervention humaine et qui en ressort une information qui va donner lieu à une modélisation des données qui sont dedans. Alors, dit comme ça, ce n'est pas forcément très explicite. Alors, je vais prendre un exemple que je prendrai avec vous. C'est la reconnaissance des fruits, des tris, des fruits et légumes hein, sur des critères donnés. Donc, voilà, on va écrire des modèles décisionnels intérieurs qui vont éplucher c'est ce qu'elle veut dire pour des fruits et légumes, hein, qui vont éplucher le contenu du fichier et qui vont nous permettre de reconnaître automatiquement, avec une marge d'erreur bien sûr, ce qu'est une orange, un pamplemousse, une cerise, une prune, une banane, n'importe quoi, les fruits qu'on a l'habitude de voir sur nos marchés. Et d'autres aussi. Mais le machine learning, c'est aussi de la prévention, c'est aussi mise en place d'alarmes, d'alertes. Voilà, c'est tout ce qui peut permettre de déduire quelque chose du contenu d'un fichier. Alors, bien sûr, si vous avez fait un modèle prédictif à partir d'un fichier, vous envoyez un nouveau fichier de données et automatiquement, les choses vont se faire. Hein. C'est-à-dire que vous envoyez un nouveau fichier, vous prenez de nouvelles photos de vos fruits, et automatiquement, le tri se fera grâce à un robot, automatiquement. D'accord, sans intervention humaine, avec une marge d'erreur faible, mais rien n'est impossible. Si vous faites un modèle qui se limite à quelques instructions, vous ne pourrez pas vraiment distinguer une petite orange d'une grosse prune, d'un gros abricot, pardon, excusez-moi, sauf si vous introduisez des variables supplémentaires, rugosité, tout, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est la caméra qui décide. Vous allez avoir des informations qui vont peut-être rassemblées dans un fichier. Le maximum d'informations que vous avez, le minimum d'erreurs et de biais, vous aurez. Voilà, c'était pour vous faire une petite intro entre la différence entre la modélisation statistique où vous partez de d'a priori, de choses que vous voulez vérifier, d'un modèle prédictif où là, vous partez d'aucun a priori, vous avez effectivement l'analyse, l'épluchage du fichier qui vous donne les grandes directions de ce que vous allez en faire. On verra hein, quand on abordera le machine learning. Alors bien sûr, là, pour cette année, je vous l'ai dit, hein, je ne pourrais pas me passer de l'intelligence artificielle pour vous faire démarrer les projets de machine learning. Et on va apprendre ensemble, hein, c'est la première fois que je le ferai, d'habitude c'est moi qui réalise les programmes Python. Hein. On va apprendre ensemble à faire des choses qui vont aller plus loin, qui vont être plus performantes et qui vont nous permettre de nous affranchir de trop de temps passé à la programmation Python. Alors, je vais donner la parole, disons, 3 minutes par groupe pour faire un retour. Il est 16h21, c'est parfait. Je commence ici par le premier groupe sur thématique questionnement. C'est tout, hein, je ne demande pas plus. Alors, n'oubliez pas une chose, je vous le dis explicitement. Hein, vous essaierez de m'envoyer une fiche, vous avez le temps hein, pour ça, puisque là, ça va être, entre guillemets, une période où on va pas se voir pendant un certain temps, hein, puisqu'on se revoit en mars, je crois. Donc, vous avez une semaine, 10 jours, je ne serai pas à quelques jours près, pour m'envoyer une fiche avec votre thématique qui est provisoire. Hein, provisoire, la thématique choisie, vous avez le droit d'en changer. Okay, provisoire, c'est juste pour partir de quelque chose. Hein. Donc, et cette fiche aussi est provisoire, y compris le contenu de l'équipe. Oui, j'ai écrit tout petit, mais je le dis. Hein. Donc, une fiche provisoire qui me donne l'intitulé d'une thématique choisie. Ensuite, vous mettez le nom des membres de l'équipe. Ensuite, les questionnements. Point barre. Je ne vous demande pas de savoir ce que vous allez faire en machine learning, ce que vous allez faire en modélisation statistique, quels outils vous allez utiliser. Les questionnements. C'est déjà pas mal. OK ? Et là, je ne vous en demande pas plus comme piste et on va en discuter. Alors, je voulais vous dire, pour ne pas avoir de problème de timing, que, là je remonte sur mon site, 98EL-H-. Alors, oui, reprenez vos places de groupe. Je suis stupide parce que j'ai... Alors, dans l'onglet les défis du L3, alors faut lui laisser le temps. Hein. Donc là, j'ai plus de réseau. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ah voilà, c'est bon. Donc, dans les défis du L3, regardez bien. J'ai ici élément de réponse du défi 1. Quand je clique juste derrière le défi, hein, je ne l'ai pas présenté plus élégamment que ça. Donc, vous voyez, juste après la case défi 1, j'ai élément de réponse au défi 1. Je ne prétends pas donner une réponse exhaustive, mais regardez, quand je clique dessus, je vais avoir une vidéo YouTube où je vais avoir une explication. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me raconte. Tout refusé.
À quoi pouvons-nous nous intéresser sur la thématique de la rivière et des abords de cette rivière.
Donc là, vous allez progresser et vous allez avoir des tableaux qui vont être associés à mes explications. Et donc, effectivement, c'est une vidéo qui dure 37 minutes. Hein. Vous pouvez la regarder en partie ou aller en diagonale, mais elle est assez explicite et ça devrait vous donner une idée de la façon dont on peut fouiller un questionnement. Et à la fin, vous avez le barème, hein, d'accord ? Je vous mets le barème que je respecterai plus ou moins parce que vous êtes loin du compte. Donc voilà le vrai barème, mais que je ne vais pas respecter parce que sinon vous auriez une note qui ne vous encouragerait pas à continuer. Bien. Alors, avant de prendre le retour en grand groupe, parce que je vais avoir des problèmes de timing, je vous montre que dans l'onglet qui s'appelle divers, je l'ai mis en divers parce que je ne voulais pas que vous soyez tentés de regarder ça. Vous avez le défi numéro 2. Et le défi numéro 2, vous avez là encore, une dizaine de jours pour le réaliser, sachant que vous allez avoir le défi numéro 3 qui va venir en foulée avant peut-être qu'on va se voir. Mais vous aurez un petit peu de temps pour le réaliser. Ce ne sera pas pour le moment, mais je préfère que vous ayez le temps. Attention, les défis, ça va défiler. Et ils ne sont pas compliqués. Regardez, on clique dessus et c'est un truc qui va vous rappeler quelque chose, hein, puisqu'on reste dans le domaine de la rivière. Mais là, on va s'intéresser aux objets connectés. C'est-à-dire, vous revêtez votre casquette de Duster Scientist, toujours vous travaillez en équipe de 2 à 4, et vous imaginez tous les appareils et autres robots de mesure et d'observation qui pourraient fournir les données, les fameuses data, permettant de répondre aux questionnements dans cet environnement. Vous pouvez vous inspirer de la correction que j'ai donnée ou de vos propres éléments que vous avez envoyés. Avec quelle partie de l'étude associeriez-vous l'utilisation de chacun d'entre eux? Vous voyez, c'est... Hein, ok. Vous répondez en une page et demie ou 700 mots maximum. Et bien sûr, si vous pouvez aller jusqu'à l'exploitation de ces données, c'est-à-dire, voilà, mon robot me donne ceci, je les exploite de cette façon-là, ben c'est pas mal. Voilà. Donc, vous essayez, là, vous voyez, de dépasser le cadre des questionnements. Vous êtes dans le pratique, paf ! Là, c'est l'aspect mesure. Vous êtes d'accord ? Je m'intéresse à la mesure. Et vous voyez, ces défis vous aident à construire progressivement l'architecture de votre projet. Parce que vous allez vous retrouver avec les mêmes choses. Travaillez avec les outils de notre époque. On n'est plus, en biologie santé, nécessairement à l'utilisation de pipette-man, même si ça reste quelque chose qu'on utilise dans 60% des cas. À mon époque, c'était 99,9% des cas d'études. Vous voyez que maintenant, il y a d'autres façons de faire. Vous avez aussi, je vous ai dit, des nouveaux outils comme la microfluidique. Vous pouvez vous y intéresser. Vous avez des carrières en or qui vous attendent. Très peu de biologistes y pensent. C'est l'apanage de tout ce qui est école normale supérieure, école d'ingénieur et tout. Et vous passez à côté. Or, vous serez pourvoyeur des données de cette microfluidique. C'est complètement étonnant. Et comme il s'agit de données, moi j'en ai fait de la microfluidique, comme il s'agit de réduction à petite échelle de phénomènes physiques, vous avez des phénomènes d'écoulement particuliers qui s'appliquent, des écoulements de Choiseul par exemple, donc des micro-hétérogénéités qui se créent. Vous travaillez en microgravité, enfin bref, vous voyez le truc, c'est très très passionnant. Et vous travaillez sur des compartiments qui font quelques nanolitres. Essayez de calculer la taille de chaque dimension pour faire un nanolitre. Bien, voilà ce que je voulais dire. Vous savez où est la correction. Elle est juste derrière l'onglet, dans l'onglet défi 1, juste derrière défi 1.